Merci à Luc pour cette première partie de culte et pour ces textes qu'il a choisis. On ne s'est pas concerté, mais il a choisi des textes qui vont à l'encontre, qui parlent en fait du thème que j'ai choisi ce matin. J'ai choisi un texte dans l'Ancien Testament qui parle d'ennemis, de victoire sur les ennemis. Un texte qui va nous montrer comment justement nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, obtenir la victoire sur nos ennemis. Et ce passage se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 17, à partir du verset 8. Exode, chapitre 17, à partir du verset 8. Et je vais lire. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il a laissé retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. » Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, c'est-à-dire « Le Seigneur est ma bannière, mon étendard. » Puis il ajouta, « Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. » Il faut d'abord situer ce texte dans son contexte. Les Israélites viennent de sortir de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, pour se diriger vers la terre promise, la terre de Canaan. Et cela ne se passe pas aussi bien qu'ils pouvaient l'espérer. Ils font face à plusieurs obstacles. Un premier obstacle, la mer Rouge qui les empêche d'avancer, de traverser de l'autre côté, alors que l'armée égyptienne était à ses trousses. Et Dieu fait un miracle. Il leur ouvre la mer devant eux pour qu'ils traversent à sec et échappent ainsi à l'armée égyptienne. Mais maintenant, de l'autre côté, dans le désert, ils vont faire face à d'autres difficultés. Le jour, il fait trop chaud, la nuit, il fait trop froid, ils ont faim, ils ont soif. Il faut trouver vite de la nourriture et de l'eau pour étancher leur soif, pour nourrir le bétail, pour étancher la soif du bétail aussi. Là encore, Dieu les bénit en leur envoyant la manne du ciel et des cailles, de l'eau en abondance. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que les Amalécites viennent les combattre à Réphidim alors qu'ils étaient fatigués. Viennent les combattre et les empêcher d'avancer, de poursuivre leur route vers la terre promise. C'est la première bataille que le peuple d'Israël doit mener. Ce sont les premiers ennemis auxquels ils doivent se confronter directement. Qui sont ces Amalécites? Selon Genèse chapitre 36, verset 12 et en Chronique 1:36, il s'agissait des descendants d'Ésaü, des descendants d'un petit-fils d'Ésaü, Ésaü donc le frère de Jacob, à qui celui-ci avait volé le droit d'aînesse. Et malgré le fait que Jacob et Ésaü se sont réconciliés quelques années plus tard, les descendants d'Ésaü ont gardé le souvenir de ce qui s'était passé entre Jacob et Ésaü. Ils sont devenus ennemis jurés des descendants d'Israël, les descendants de Jacob. Une haine profonde animait les Amalécites à l'égard des enfants d'Israël. Les récits de l'Ancien Testament nous disent que c'était aussi un peuple de pillards. un peuple qui avait l'habitude de s'infiltrer, de faire des incursions autour d'eux, au sein des peuples voisins, pour les piller. Et comme ils habitaient au sud de la Palestine, plus précisément au nord-est de la péninsule du Sinaï, les voilà exactement sur la route des Israélites qui fuient l'esclavage d'Égypte pour aller vers Canaan. Ils étaient là, sur leur route. C'était donc l'occasion de se venger, n'est-ce pas, et de liquider une fois pour toutes ce peuple qui avait dépossédé leur ancêtre Ésaü de son héritage. Pour Israël, la situation était vraiment dramatique. Ils étaient fatigués. Ils étaient affaiblis par le voyage. Ils étaient freinés par les diverses épreuves, les diverses difficultés qu'ils avaient rencontrées jusque-là. Et en plus, ils étaient en infériorité numérique par rapport aux Amalécites, qui étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Ils n'ont, à vue humaine, aucune chance de s'en sortir. Aucune chance. Mais c'est le peuple de Dieu. Et on voit à la lecture de ce passage que pour Dieu, les Amalécites sont finalement l'outil que Dieu va utiliser pour apprendre une première et grande leçon à son peuple. Bien moins fort que les Israélites devront apprendre à dépendre uniquement de leur Dieu. Ils doivent apprendre à lui faire totalement confiance. Pour sortir victorieux de cette attaque de l'ennemi, ils devront être à l'écoute de leur Dieu. Ils devront croire aux promesses que Dieu leur avait faites à ce sujet. Et on a lu quelques-unes ce matin, lorsqu'il leur disait qu'il les aiderait à vaincre tous leurs ennemis. Tous leurs ennemis. Ils devront apprendre donc à croire à cette promesse. Ils devront apprendre à faire confiance à Dieu, à compter sur lui, à le laisser agir, malgré les apparences défavorables. Moïse rappelle dans Deutéronome 25, 17, de quelle manière les Amalécites ont attaqué le peuple d'Israël. Il nous dit ceci, « Rappelez-vous comment les Amalécites vous ont traité quand vous étiez en chemin après votre sortie d'Égypte. Sans aucun respect de Dieu, ils vous ont rejoint sur votre route et ont attaqué par derrière. Ils ont attaqué par derrière les éclopés qui fermaient votre marche alors que vous étiez épuisés et à bout de force. Les Amalécites ont été rusés, ils ont attaqué par derrière. Ils ont attaqué la colonne d'Israël par derrière, là où se trouvaient ceux qui étaient fatigués, ceux qui traînaient sur la route, ceux qui avançaient plus doucement parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'étaient des ennemis redoutables qui ne reculaient devant aucune bassesse. Mais ce qui est intéressant en lisant ce passage, c'est la stratégie que le leader du peuple d'Israël, Moïse, va adopter. Et son résultat. Il dit au verset 9, il dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Il fallait bien se défendre, mais la stratégie de Moïse associe la prière à l'action. La prière à l'action, car la victoire ne pouvait venir que de Dieu. Et le texte nous dit qu'aussi longtemps que Moïse en haut de la montagne élevait ses mains pour prier et que Josué dans la plaine avec ses hommes combattait les Amalécites, les Israélites gagnaient. Mais quand Moïse baissait ses mains, les Amalécites gagnaient. Vous savez que dans l'Ancien Testament, l'élévation des mains est liée à la prière. C'était l'un des gestes de la prière chez les Juifs. Nous lisons par exemple dans Exode 9, 29, cette parole de Moïse avant de quitter l'Égypte. Il dit, « En quittant la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel pour prier. » Je lèverai les mains vers l'Éternel pour prier. Au psaume 141, verset 2, le psalmiste dit, « Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. » L'offrande qui était offerte au temple, n'est-ce pas, comme pour adorer le Seigneur. Et l'apôtre Paul va dire à son fils dans la foi, Timothée, « Je veux qu'en tout lieu des hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. » Or, le passage nous dit que les mains de Moïse se sont alourdies. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lever les mains. Combien de temps vous pouvez rester les mains élevées, comme ça, n'est-ce pas, en l'air? Ce n'est pas facile. Et donc, ces mains se sont alourdies. Alors, Aaron et Hur ont trouvé une astuce. Ils ont pris une pierre qu'ils ont placée sous Moïse pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Et ensuite, ils se sont mis à soutenir ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, de manière à que ses mains restent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et c'est ainsi qu'ils ont pu prier Dieu toute la journée, du début de la bataille jusqu'à la fin. Et le résultat, nous dit le passage biblique, fut la victoire contre les Amalécites. En se souvenant de ces trois hommes en prière pour eux sur la colline, les combattants d'Israël se sont fortifiés, Leur courage a été augmenté et ils se sont lancés dans la bataille avec force, avec dynamisme, avec courage, parce qu'il y en avait trois sur la montagne qui priaient pour eux. Et le résultat, c'est que les Israélites sont sortis vainqueurs de cette bataille alors qu'ils étaient moins nombreux. Moins nombreux, mais plus forts, car Dieu était avec eux. Moïse, dans ce passage, dit que son bâton était le bâton de Dieu. Ce n'était qu'un morceau de bois, Mais c'est avec ce bâton que Dieu lui a permis de délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Avec ce bâton, il a divisé l'eau de la mer Rouge en deux pour permettre au peuple d'Israël, à son peuple, de traverser à sec jusque de l'autre côté. Avec ce bâton, il frappa le rocher d'Horeb d'où jaillit de l'eau potable. Ce bâton était donc pour lui et son peuple le symbole de la puissance divine, le symbole du secours divin, le symbole de la victoire, le symbole de la foi. Avec ce bâton à la main, il affirmait sa confiance en Dieu et la confiance de son peuple, sa confiance en la victoire sur les Amalécites. Ce bâton était le signe divin auquel s'attachait leur foi. Et on peut imaginer que la vue de ce bâton dans la main de Moïse en haut de la montagne remplissait donc de courage et de force les combattants d'Israël en bas dans la plaine. Un peu comme aujourd'hui le font les promesses divines chez les croyants qui passent par des moments terribles de détresse, n'est-ce pas? Ils s'accrochent aux promesses divines et cela les encourage. Enfin, après la bataille et la défaite des Amalécites, nous dit le texte, Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, c'est-à-dire le Seigneur est ma bannière, ou le Seigneur est ma victoire. Moïse voulait ainsi montrer sa reconnaissance au Seigneur et le faire par un signe visible, commémoratif, qui rappelait cette victoire à tous les autres, à tout le peuple et à tous ceux qui passaient par là. Cette victoire acquise grâce au secours divin. Il reconnaît ainsi avec gratitude que c'est Dieu qui a permis à son peuple, au sien, de remporter cette victoire sur les Amalécites et que c'est lui qui conduit et qui conduira son armée et son peuple dans cette traversée du désert. Et on voit que le récit donc commence par les Amalécites qui viennent faire la guerre à Israël. Et il s'achève au verset 16 par une déclaration de guerre contre les Amalécites de génération en génération, nous dit le passage. Cette première guerre contre les Amalécites annonçait d'autres guerres liées à la conquête de Canaan sous la conduite plus tard de Josué, successeur de Moïse. C'est d'ailleurs la première mention de Josué dans ce passage biblique. On sait qu'il était très jeune, probablement sans savoir encore comment Dieu allait l'utiliser, à quel service Dieu le destinait. Mais c'est intéressant de voir que Moïse l'a pris comme son assistant. Moïse l'a pris auprès de lui. Comme Paul plus tard a pris le jeune Timothée, n'est-ce pas, pour lui confier des responsabilités, de grandes responsabilités dans l'Église, en jeune pasteur, et l'apôtre Paul l'a fait. Et Moïse donc a fait confiance à ce jeune Josué pour cette première bataille, alors qu'il n'avait aucune expérience. C'était la première fois qu'il allait à la guerre. Et il lui a fait confiance après pour toutes les autres batailles qui allaient venir, parce que Moïse n'était pas dupe, n'est-ce pas? Il savait ce qui l'attendait, ce qui attendait le peuple d'Israël dans cette traversée du désert. Car plus tard, c'est Josué qui conduira le peuple de Dieu donc à la conquête du pays de la promesse. Les fluctuations de ce premier combat dans le désert contre les Amalécites apprennent beaucoup de choses à Josué. Et sans doute à chacun de ces guerriers, n'est-ce pas? En tout cas, cette première bataille apprend à Josué, à ses hommes, à dépendre entièrement de Dieu et à se montrer obéissant à tout ce que Dieu leur dit. C'est intéressant de voir qu'à la fin, donc du désert, Josué est reconnu comme un homme en qui l'Esprit de Dieu agissait. Un homme en qui l'Esprit de Dieu agissait. Voilà un très bon exemple, n'est-ce pas, qui doit nous encourager, nous les plus âgés dans l'Église, à confier des responsabilités à nos jeunes et à leur confier des responsabilités qui les font avancer aussi avec nous, n'est-ce pas, dans le service du Seigneur, leur faire confiance. Que pouvons-nous apprendre de ce récit? L'apôtre Paul dit que ces choses, je vais citer le texte, ces choses donc, de l'Ancien Testament leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Pour notre instruction. Alors, quelles sont les instructions que nous pouvons retirer de ce passage? Un passage qui parle de guerre. Le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire nous les chrétiens, sommes-nous en guerre? Avons-nous des ennemis? Qui sont nos Amalécites aujourd'hui? Ces ennemis qui surgissent là où on les attend le moins, qui attaquent parfois par derrière, qui attaquent là où nous sommes peut-être les plus sensibles, le plus vulnérables. Nous le savons très bien, nous évoluons dans un environnement hostile à Dieu. Nous évoluons dans un monde qui est en révolte contre Dieu, nous dit la Bible. Et nous le savons, nous le voyons bien, n'est-ce pas? D'ailleurs, Jésus a prévenu ses disciples, on a cité tout à l'heure le texte, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, des adversités, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Je vous envoie, dit Jésus, comme des agneaux au milieu des loups. Jésus nous a avertis, n'est-ce pas? La vie chrétienne ne serait pas facile, ne serait pas facile. Jésus a aussi parlé du prince de ce monde, le diable, qui agit contre Dieu, contre son peuple, et qui fait tout pour empêcher que l'œuvre de Dieu se réalise dans ce monde, que le plan de Dieu s'accomplisse dans le monde et dans nos vies. Et le Seigneur Jésus et les apôtres, après lui, nous encouragent à veiller et à prier. Nous savons bien que dans nos pays occidentaux, nous sommes pour le moment tolérés. Nous sommes tolérés. Mais dans d'autres pays, les chrétiens payent un tribut très, très lourd. Ils sont emprisonnés, ils sont exécutés. Depuis quelques années, il y a dans certains pays une véritable christianophobie. Pensons par exemple au Nigeria, l'un des pays les plus christianisés au monde, où actuellement les chrétiens du Nord sont pourchassés par des musulmans majoritaires au Nord. Ils sont tués chez eux. Ils sont tués dans leur propre pays, ils sont tués dans la rue, ils sont tués dans leur maison, ils sont brûlés vifs dans leurs églises, ils sont tués dans leurs champs. Pensons aux chrétiens dans les pays du Maghreb, n'est-ce pas? Le printemps arabe est en train de devenir l'hiver des chrétiens, n'est-ce pas? Et dans beaucoup d'autres pays musulmans, la chasse aux chrétiens continue. C'est terrible de constater une augmentation énorme des persécutions des chrétiens ces dernières années dans le monde. Récemment, une vidéo postée sur Internet montrait des jeunes musulmans en train de dégorger l'un de leurs camarades devenus chrétiens, l'un de leurs amis, simplement parce qu'il était devenu chrétien, parce qu'il avait renié sa foi. Il faut qu'il y ait des gens comme Moïse, Aaron et Hur qui intercèdent en faveur de son peuple partout dans le monde et de son peuple persécuté. Quoi qu'il arrive à des chrétiens par-ci et par-là, et depuis toujours, les chrétiens ont souffert et ont donné leur vie pour l'Évangile, et le sang des martyrs et la semence de l'Évangile, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive à des chrétiens par-ci et par-là, l'Église de Jésus-Christ est une force indestructible. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle, affirmait Jésus. L'Église est là pour toujours, pour l'éternité. Et la preuve, c'est qu'elle est là depuis 2000 ans et qu'elle continuera sa mission sur cette terre, celle de l'annonce de l'Évangile, l'annonce du royaume de Dieu jusqu'au retour de Jésus-Christ. Au siècle dernier, notre plus grand malécite, c'était le communisme soviétique, n'est-ce pas? Qui aurait cru que le géant communiste athée, antichrétien, allait s'écrouler comme un château de cartes? Si sa chute est arrivée aussi vite et aussi facilement, c'est certainement par la foi et la prière de beaucoup de chrétiens, comme ceux de Portes Ouvertes que nous connaissons bien et de frère André, n'est-ce pas, dont sa vie nous inspire, qui ont prié avec foi, qui ont cru à la puissance de Dieu, qui ont levé leurs bras au ciel, priant avec foi pour que le géant rouge tombe. Le communisme n'était que la malécite du moment, du XXe siècle, n'est-ce pas? Apparemment invulnérable, mais en fait, il n'était qu'un simple, une simple statue au pied d'argile que la foi et la prière des chrétiens ont terrassé. Tout au long des siècles, il y a eu aussi un amalécite très costaud qui a touché l'Église en suscitant un abandon de la parole de Dieu, de la Bible, comme référence de la foi. Et petit à petit, à travers des siècles, on a vu des principes bibliques très connus des premiers chrétiens, des apôtres et de l'Église primitive disparaître du milieu des chrétiens et de l'Église. Tout au long des siècles, l'Église a été attaquée par ces amalécites rusés qui ont introduit des traditions païennes au sein de l'Église et qui ont conduit donc l'Église à une certaine époque à abandonner la Bible, la parole de Dieu comme seule unique règle de foi et de pratique. Heureusement qu'il y a eu des intercesseurs et des chrétiens qui ont combattu, comme dit Jude, pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Combat qui a abouti à la réforme protestante du XVIe siècle et quelques années plus tard à la réforme radicale, celle des églises de la mouvance évangélique, qui affirme tout simplement la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. La parole de Dieu comme règle de foi et de pratique, des chrétiens qui refusent tout ce qui est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. Ce combat doit continuer parce que nous devons être vigilants. Continuer encore car les amalécites d'aujourd'hui sont à l'œuvre. Ils essayent de s'attaquer aux vérités essentielles de la foi chrétienne, aux principes bibliques. Ils ne désistent pas. Aujourd'hui, un des principaux amalécites, c'est ce nouveau type de religiosité humaniste, laxiste, tolérante, syncrétiste, universaliste et, je dirais souvent, occulte, n'est-ce pas? Occulte, qui rejette les fondements de la foi chrétienne et qui n'accepte plus des notions de base de la foi chrétienne telles que le péché, la repentance, le pardon acquis à la croix par Jésus-Christ, la résurrection etc., etc., la base de la foi chrétienne. Pour cette nouvelle religion occidentale, le fait que Jésus soit le seul chemin, la seule vérité, la vie avec un grand V, la seule porte d'entrée au ciel, est inacceptable, totalement inacceptable. Or, la Bible nous dit que le seul qui a donné sa vie pour les péchés de l'humanité, c'est lui, Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, affirme la Bible. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Un autre Amalécite actuel, il y en a beaucoup, mais permettez-moi de citer encore celui-là. C'est l'attaque de l'ennemi sur la famille dans la société. Toutes les notions bibliques de la famille sont foulées aux pieds depuis quelques années. Les Amalécites modernes sont très forts pour nous faire accepter des choses contraires à la parole de Dieu. Par exemple, ce qui était considéré autrefois comme une désorientation sexuelle ne l'est plus aujourd'hui. On a enlevé le DES de désorientation. Aujourd'hui, c'est une orientation sexuelle comme une autre. Et on veut nous faire avaler cela, n'est-ce pas? Le mariage institué par Dieu entre un homme et une femme, aujourd'hui peut se faire entre des personnes du même sexe, comme si Dieu avait donné à Adam, n'est-ce pas, un homme. Cela arrive dans nos pays où le mariage homosexuel a été légalisé, cela arrivera aussi dans notre pays, puisqu'on a à la tête de notre État un parti qui défend le mariage homosexuel. Le prophète Ésaïe disait déjà à son époque, « Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Aujourd'hui, le combat contre les Amalécites continue, il fait rage. Il y a ceux parmi nous qui sont touchés par des Amalécites en forme d'épreuves très dures, parfois très difficiles à surmonter et dont on ne comprend pas toujours le sens. Il y en a raison de se demander, mais pourquoi? Ceux qui luttent depuis longtemps face à certains problèmes, ceux qui souffrent et qui sont peut-être même fatigués de lutter, fatigués de louer le Seigneur, découragés de toujours redemander à Dieu les mêmes guérisons, les mêmes délivrances. Leur fardeau est souvent très lourd à porter. Leur joug est difficile. Ils attendent des réponses depuis si longtemps qu'ils sont découragés et ils commencent à baisser les bras. Qui viendra leur aider à lever les bras? D'autres ont des doutes. Ont peur face aux circonstances de la vie, face au chômage qui les menace. D'autres sont assaillis par des tentations terribles dont ils ont du mal à se défaire. Les uns et les autres, nous avons vraiment besoin de l'aide du Seigneur et de l'aide des uns et des autres, des Aaron et des Our autour de nous. Nous avons vraiment besoin de discernement du Seigneur afin de ne pas tomber dans la compromission avec le mal, ni dans la lâcheté, ni dans le découragement, ni dans le désespoir. Les Amalécites peuvent en effet prendre une grande variété de diversité de visages dans nos combats quotidiens. Mais derrière ces visages, il y a un esprit qui n'est pas celui du Seigneur. Avec nos modestes moyens, nous nous trouvons face à ces Amalécites comme le peuple d'Israël s'est trouvé face à son ennemi. Nous sommes complètement dépassés. En effet, devant ces grands défis, nous sommes impuissants, nous nous sentons impuissants. Pourtant, les promesses de Dieu à son peuple sont des promesses pour nous aujourd'hui, le peuple de la Nouvelle Alliance. Ce sont des promesses de victoire et non pas de défaite. Ceci dit, nous savons bien que Dieu permet ces choses. Et la preuve, c'est que nous le savons bien par expérience que Dieu permet ces choses dans nos vies. Il permet que nous ayons ces combats, car c'est à ce moment-là que nous avons absolument besoin de nous tourner vers lui pour lui demander de l'aide. C'est à ces moments-là que nous nous tournons vers lui et apprenons finalement à dépendre entièrement de lui. Il veut nous apprendre à croire, à prier, à lui faire confiance, à mieux dépendre de lui et à combattre avec son aide. Ces combats seraient perdus d'avance si nous n'allions qu'avec nos propres forces, sans compter avec l'aide de Dieu. Sans son aide, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous abordons ces combats avec son aide et en lui faisant confiance, le Seigneur met à notre disposition toutes les forces nécessaires pour que nous puissions gagner ces combats. Comme dit le psalmiste dans le psaume 127, « Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » En vain vous levez-vous tôt le matin, en vain vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et ces armes, finalement, nous les avons dans ce passage et dans beaucoup d'autres de la parole. Ces armes dont nous avons besoin, n'est-ce pas, pour nos combats. Comme Moïse, nous devons nous asseoir. Nous asseoir sur le rocher solide de notre salut. Cette forteresse et ce refuge qui est Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Nous reposer sur lui, nous enraciner en lui, nous nourrir de lui, boire à son eau, nous identifier à lui, construire notre vie sur lui, en lui, avec lui. Tout ceci à travers la communion avec lui, n'est-ce pas, par la méditation de sa parole qui nous fait découvrir sa personne, son œuvre, par la communion avec lui, grâce au culte public où nous sommes tous ensemble pour louer le Seigneur et apprendre à le connaître, par le culte individuel aussi, par la prière individuelle, mais aussi par la prière collective, la prière où certains de nos frères nous aident à lever nos mains fatiguées vers le ciel, comme Moïse a eu besoin d'Aaron et de Hur pour continuer à prier. Pour nous, le soutien d'Aaron et de Hur, finalement, c'est quoi? Ce sont nos frères et sœurs, c'est l'Église tout entière. Ce sont peut-être... Non, je vais enlever le mot peut-être. Ce sont nos groupes de maison aussi qui doivent être des groupes de partage, d'écoute, de prière aussi. Bien sûr, d'étude de la parole de Dieu, mais de partage et d'écoute aussi. Et je pense que nous avons à renforcer ce côté nécessaire de nos groupes de maison, que nos groupes soient des groupes d'écoute et de prière. Comme Moïse, nous devons prendre le bâton. Le bâton qui était le symbole de l'autorité et de la force du Seigneur. C'est avec ce bâton que Moïse a fait des prodiges. Avant de l'envoyer sortir le peuple d'Égypte, Dieu lui a dit de prendre son bâton et de le jeter par terre. Miracle, celui-ci se transforme en serpent. Et Dieu lui a dit de prendre le bâton. C'est plus facile de prendre un bâton que de prendre un serpent, n'est-ce pas? Même s'il faut le prendre par la queue. Mais il fallait qu'il le fasse, et Moïse l'a fait. Moïse l'a fait. Prendre le serpent par la queue. C'est effectivement plus difficile de faire des actes de foi quand nous voyons Satan agir devant nous. Mais avec l'autorité de Dieu, nous pouvons le faire, parce que c'est le Seigneur qui nous donne cette autorité. Avec le bâton de la foi et de l'autorité du Seigneur en nous, nous pouvons faire comme cette femme qui avait un fils en prison et qui répondait à ceux qui demandaient de ses nouvelles. Elle disait, il se prépare à devenir évangéliste alors qu'il était en prison. Il se prépare à devenir évangéliste. Ce garçon n'avait rien d'un évangéliste, il n'était qu'un pauvre perdu sous les verrous. Mais sa mère lui disait, il se prépare à devenir évangéliste. Elle l'a voulu, avec foi. Elle l'a imaginé, elle a vu son fils devenir évangéliste. Elle l'a proclamé comme tel. Et beaucoup d'années plus tard, son fils est devenu un évangéliste. Avec la foi et l'autorité du Seigneur, nous pouvons faire de grandes choses, nous pouvons avoir des victoires. nous pouvons prendre le diable par la queue. Face à l'ennemi qui attaque, le chrétien répond donc par la prière individuelle, la prière collective, avec le soutien des frères et des sœurs, et avec le bâton de la foi, car il est assis sur un rocher solide, le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous encourage aussi, et je vais arrêter là, dans cette lutte contre l'ennemi, à veiller sur notre conduite, à nous battre contre tout ce qui pollue spirituellement notre vie, tout ce qui nous éloigne de Dieu et de sa parole. Elle nous encourage à pourchasser le péché qui nous sépare de Dieu, qui crée une barrière entre nous et Dieu, et à centrer notre vie sur Jésus-Christ. Dans nos combats, hâtons-nous de nous rallier sous l'étendard, sous la bannière du Seigneur. C'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats, et lui seul peut délivrer les siens, les rendre plus que vainqueurs, nous dit la parole de Dieu. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit ceci: « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Ma prière pour ce matin, c'est que le Seigneur puisse nous remplir de son esprit en abondance, afin que nous puissions combattre de manière victorieuse, qu'il nous équipe donc de toutes ces armes dont la parole de Dieu vient de mentionner, n'est-ce pas, afin que, comme les enfants d'Israël autrefois, nous soyons tous ensemble vainqueurs par Jésus-Christ, en lui, pour lui, dans l'attente de son retour. Amen.